Place à présent au journal d'Haïti des Amériques avec vous, Joris Zilberman, bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une, la crise entre les États-Unis et l'Iran. On reviendra sur les révélations du New York Times, ces frappes aériennes d'abord approuvées puis annulées par Donald Trump cette nuit, ce qui suscite l'inquiétude sur la stratégie de la Maison-Blanche. On vous emmènera ensuite en Haïti pour rencontrer l'académicien Dany Laferrière, c'est l'invité d'honneur de Livre en Folie, l'événement littéraire de l'année dans le pays. On partira au Guatemala pour parler cinéma avec Nuestras Madres, Nos Mères, le long métrage guatémaltèque Caméra d'Or à Cannes cette année, un film sur les plaies encore ouvertes après le conflit armé dans le pays il y a plus de 30 ans. Et puis on fera le point sur la Copa América, c'est du football où l'Uruguay a fait match nul contre le Japon. L'Argentine de Messi, elle retient son souffle avant son match contre le Qatar ce dimanche. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Joris, bonjour à tous.
À la une de votre revue de presse, cette révélation du New York Times, selon le journal, Donald Trump aurait initialement approuvé des frappes contre des cibles iraniennes pour ensuite les annuler à la dernière seconde.
Absolument, jusqu'à 19h, des responsables militaires et diplomatiques américains s'attendaient à des frappes en représailles à l'action de l'Iran qui avait abattu mercredi un drone américain, rapporte le New York Times. Donc, auparavant, d'intenses discussions et débats ont eu lieu à la Maison Blanche entre les plus haut responsable de la sécurité nationale et des dirigeants du Congrès. Les participants à ces réunions ont confié au journal que le président avait initialement approuvé des attaques sur une poignée de cibles iraniennes telles que des batteries de radars et des missiles. L'opération avait d'ailleurs déjà débuté, poursuit le New York Times. Les avions étaient dans les airs et les navires étaient en position, mais aucun missile n'avait encore été tiré quand l'ordre d'annulation de l'opération est arrivé. Ni le journal de New York, ni aucun autre média américain ne peut dire pour l'instant avec précision ce qui a causé ce revirement de la situation.
Et ces révélations suscitent en tout cas une vive inquiétude parmi les éditorialistes américains, Stéphanie.
Que cherche le président ? S'interroge par exemple le San Francisco Chronicle. Donald Trump n'a pas expliqué ce qu'il attendait précisément de Téhéran. Il n'a fait qu'appeler à un meilleur accord que celui conclu par son prédécesseur Barack Obama. Mais cette perspective semble s'éloigner de plus en plus en l'absence d'une diplomatie digne de ce nom. Et cette absence d'alternative rend l'escalade de plus en plus probable.
Et beaucoup d'éditorialistes américains mettent en effet en cause la stratégie de la Maison-Blanche vis-à-vis de l'Iran.
Aux yeux de nombreux experts, le président est responsable de la crise actuelle, constate USA Today, puisqu'il a fait l'erreur monumentale de retirer les États-Unis de l'accord nucléaire. Et c'est pourquoi, renchérit le Brunswick News, un journal local de Géorgie, une guerre avec l'Iran serait la guerre de Donald Trump. Le site internet de la chaîne CNN, très critique, on le sait, hein, à l'égard du locataire de la Maison-Blanche, met en avant les signaux contradictoire envoyé par le président. Vendredi dernier, il a déclaré vouloir parler avec les Iraniens, rappelle l'éditorialiste de CNN. Alors qu'en mai, Trump tweetait encore « Une guerre avec l'Iran serait la fin officielle de l'Iran ». Et hier, après la frappe iranienne sur le drone américain, il tweetait que l'Iran avait fait une grosse erreur. Pour le New York Times, les messages incohérents en provenance de la Maison-Blanche soulignent en tout cas le fait que les États-Unis et l'Iran sont tous deux capables de commettre de graves erreurs de calcul stratégique. Dans une situation où les forces américaines et iraniennes s'approchent d'un conflit ouvert, dans et autour du détroit d'Ormuz, des têtes plus posées et froides doivent prendre le relais. En clair, le Congrès doit être consulté, plaide le quotidien.
Et enfin pour le Washington Post, l'actuelle crise avec l'Iran est symptomatique de la politique étrangère menée par Donald Trump.
Oui, Joris, le journal de Washington estime qu'on a assisté là à un autre exemple de la fameuse politique de pression maximale que le président a déjà appliquée à la Corée du Nord, au Venezuela, aux Palestiniens et maintenant donc à l'Iran, sans parler de sa politique de pression maximale appliquée à la Chine, à l'Europe et à l'Inde en ce qui concerne le commerce. Dans tous ces cas, observe le Washington Post, le président insiste sur le fait qu'il compense la clémence de ses prédécesseurs. Selon Donald Trump, ses opposants aux États-Unis étaient et sont encore trop naïfs, trop crédules, trop mous. Les défis géopolitiques auxquels sont confrontés les États-Unis exigent sa marque distincte d'une action énergique et unilatérale. Bien que cela ne signifie peut-être pas la guerre, ce que Donald Trump répète ne pas vouloir, cela signifie en tout cas un ensemble d'actions agressive qui impose la volonté de Washington au reste du monde. Et le Washington Post conclut, mais il devient évident que quelles que soient les fanfaronnades de Donald Trump, ses efforts de pression maximale ne donnent pas les résultats escomptés et, dans certains cas, sont en fait des retours en arrière qui ne font que compliquer la situation des États-Unis et de leurs alliés exaspérés.
Merci Stéphanie Schuller. On passe maintenant au sport. Bonjour Romain Lebrasquier.
Bonjour Joris, bonjour à tous.
On débute avec une seule rencontre dans le cadre de la Copa América. La nuit dernière, l'Uruguay affrontait le Japon, pays invité pour cette édition 2019. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Japonais n'ont pas fait que de la figuration.
Oui, les Japonais ont même mené à deux reprises dans cette rencontre très rythmée qui s'est achevée sur le score de 2-2. Un match que l'Uruguay aurait dû remporter selon le quotidien sportif Ovation. Mais les Japonais, selon ce quotidien, avaient bien étudié le jeu de l'Uruguay. Ce qui a difficulté la tâche au coéquipier de Luis Suarez, auteur d'un but. L'Uruguay, avec ce résultat, n'est pas encore qualifié, mais occupe tout de même la première place de son groupe. Quant au Japon, il peut toujours se qualifier, même si la tâche s'annonce compliquée.
Et quel est le programme des rencontres ce soir, Romain ?
Alors, 3 matchs sont prévus. Le Chili affronte l'Équateur. Le Venezuela sera opposé à la Bolivie. Enfin, les Brésiliens affronteront le Pérou pour une place en quart de finale de sa Copa América, puisque cette édition se dispute au Brésil.
Et dans l'autre compétition continentale, la Gold Cup, qui se joue aux États-Unis, Haïti a obtenu hier son ticket pour les quarts de finale.
Oui, victoire 2-0 des Grenadiers face au Nicaragua. Steven Saba a marqué le premier but, alors que le second but est un but contre son camp du Nicaragua. Avec ce résultat, Haïti se qualifie pour le tour suivant sans avoir disputé un match extraordinaire, précisant une nouvelliste. Dans l'autre rencontre de la soirée, les Bermudes se sont inclinés 2-1 face au Costa Rica. Deuxième victoire consécutive pour les Ticos, qui obtiennent également leur ticket pour les quarts de finale. Une victoire saluée par le quotidien La Nation, qui s'inquiète tout de même du niveau de jeu affiché contre les Bermudes.
Et au programme ce soir ?
Au programme donc de cette Gold Cup, Salvador contre la Jamaïque, Honduras, Curaçao et Guyane face au Panama.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
C'est l'événement littéraire de l'année en Haïti. Livre en folie s'est tenu hier à Port-au-Prince. Un événement qui a attiré les foules, signe de l'amour des Haïtiens pour leurs écrivains et aussi du besoin des habitants de la capitale de se détendre dans un contexte sociopolitique très tendu. Chaque année, les éditeurs, il faut le dire, offrent pour cet événement jusqu'à 50% de réduction. Pour cette 25e édition, c'est l'académicien Dany Laferrière qui était l'invité d'honneur. Au micro de notre correspondante Amélie Baron, l'écrivain témoigne de sa gratitude.
C'est un honneur, c'est vrai, parce que c'est se faire distinguer parmi beaucoup d'écrivains. Naturellement, on est dans une succession d'écrivains qui nous ont précédés et qui permettent à la population d'apprécier la galerie de tableaux d'écrivains de notre époque.
Et de savoir, parce que bon, le climat actuel est un peu compliqué en Haïti, il y a beaucoup de craintes, des gens qui se disent on ne sort pas, on a peur, des manifestations, des peut-être violences. Livre en folie, c'est une bouffée d'air frais, on va dire, peut-être, qui était nécessaire et vitale.
Et d'autant plus que le livre ne peut jamais être l'ennemi de quelles que soient les réclamations d'une société. S'il s'agit vraiment de démocratie, il n'y a pas de démocratie qui ne passe pas par le livre. Ça ne veut pas dire que uniquement ceux qui savent lire peuvent faire la démocratie. Ça veut dire que le livre est une fenêtre sur le monde et littéralement, si on veut prendre son destin en main un peuple, il doit savoir que d'autres existent, qu'ils ont eu leur histoire, leurs expériences et qu'on peut y puiser.
Alors bouffée d'air, on a beaucoup de vent aujourd'hui, heureusement, parce qu'il fait chaud. Vous passez votre temps là depuis tout à l'heure à passer dans les stands des différents éditeurs et aussi à faire beaucoup de photos. Vous êtes un peu la rockstar aujourd'hui.
Je suis un peu la rockstar, mais j'essaie de donner une parcelle de cette gloire du jour à tous ceux qui écrivent, parce que précisément, c'est quelque chose d'exceptionnel dans un pays où la situation économique est désastreuse, la misère, et ces gens-là n'ont pas de subvention souvent de l'État, ils n'ont pas d'éditeur, c'est à compte d'auteur. Pour moi, écrire un livre à compte d'auteur, sans lectorat, presque, il y a un lectorat, mais c'est toujours chiche. Et c'est de l'héroïsme. C'est vraiment croire dans la matérialité du livre. Et les gens le font, ils me le disent. J'écris et pour que mes enfants sachent qu'il y a eu un écrivain dans la famille. Pas un criminel, un écrivain.
À l'ombre des stands des éditeurs, les lecteurs scrutent attentivement les longues listes de livres disponibles pour bien sélectionner leurs achats.
Là, je suis venue pour Dany.
Immortel grâce à sa nomination à l'Académie française, Daniela Ferrière n'a besoin que de son prénom pour s'identifier dans son pays de naissance. Naïka Sans Peur l'a donc inscrit en bonne place sur sa liste, une liste qu'elle peut allonger sans trop se ruiner.
Je vais prendre un petit exemple. Si à la librairie, j'achète un livre à 1050 gouttes, et ici, à Livre en Folie, déjà, il y a beaucoup de réductions cette année. Il y a plus de 50% de réduction. Disons que je peux l'acheter vers les 300-500 gouttes. Puisque c'est déjà stressant au niveau de la capitale et aussi avec les problèmes socio-économiques et politiques. Donc, venir à Livre en Folie, c'est prendre un petit peu de respiration. C'est prendre un petit peu de souffle parce que c'est hyper relaxant pour nous. On essaie de ne pas penser à autre chose. On rencontre des gens qu'on connaissait déjà et aussi de rencontrer de nouvelles auteurs. Donc ça nous fait quelque chose de plus.
Livre en Folie, ça permet aux gens, comme vous dites, de se retrouver. Il manque des espaces comme ça peut-être?
Ben oui, il manque beaucoup d'espace parce que disons que si je prends un petit exemple, si j'habite à Delma et puis la personne habite à Mortiza. Donc pour nous, on fait en sorte qu'on nous expulse quelque part. Mais se rencontrer ici à Livre en Folie, c'est autre chose, c'est une autre vie.
Une autre vie qui n'aura duré qu'une journée, mais les livres sont encore disponibles à l'achat jusqu'à dimanche sur le site internet livres-en-folie.com. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Il a reçu la caméra d'or au Festival de Cannes cette année, Nuestras Madres en espagnol, Nos Mères en français. Ce film guatémaltèque de César Diaz parle des plaies encore ouvertes après le conflit armé au Guatemala dans les années 1980, un conflit qui a fait 200 000 morts et des dizaines de milliers de disparus. Nos Mères parle de ces secrets ensevelis dans la terre. Maria Carolina Pina a rencontré le réalisateur César Diaz.
Et ellos quiénes son?
Ellos son los guerrilleros. Estaban ellos en el pueblo cuando entraron los militares.
Au Guatemala, Ernesto, un jeune anthropologue, se charge de l'identification des disparus à partir d'ossements trouvés dans des fosses communes. Un jour, il croit retrouver les traces de son père, un guerrillero disparu pendant la guerre civile. C'est l'histoire du film Nuestras Madres du guatémaltèque César Diaz. Avec ce premier long métrage, il interroge le sort de centaines de milliers de guatémaltèques qui cherchent encore des réponses sur leurs proches disparus ou assassinés au cours d'une guerre qui a duré 30 ans et qui a fait 200 000 morts ou disparus. Nos Mères parle aussi des nombreuses femmes indiennes victimes du conflit armé. Nous avons rencontré le réalisateur César Diaz au dernier Festival de Cannes où le film a été projeté en première mondiale.
Je suis arrivé à cette histoire à partir de repérages que je faisais pour un documentaire et je suis arrivé dans un village qui avait été victime d'un massacre. Et il y avait des femmes qui m'ont amené sur les lieux, enfin des femmes victimes indiennes, qui m'ont raconté exactement comment ça s'était passé. C'est-à-dire les soldats sont arrivés un jour, leur mari était mort, assassiné, leur enfant aussi. Donc c'était très fort. Et pour moi, c'était important de raconter cette histoire parce qu'on a l'impression d'avoir une sorte de responsabilité historique. Et aussi parce que je pense que ces femmes-là, enfin pour rendre un peu hommage aussi à ces femmes-là, qui continue à raconter pour que ça ne se répète pas et qui continue à raconter aussi pour que ça soit réel et que ça existe. Et j'ai construit un personnage qui puisse l'incarner.
Buenos días, Ernesto.
Buenas.
Disculpe que vengamos a molestar, pero mis compañeras mujeres también quieren dar testimonio.
César Diaz signe un film fort sur un pays qui, plus de 20 ans après la guerre civile, garde de nombreux secrets enfouis dans la terre et sur des individus qui tentent, tant bien que mal, de reconstruire leurs histoires personnelles.
Je pense que pour pouvoir soigner les blessures d'une guerre ou d'un conflit comme les Guatémaltèques, il faut commencer par l'individu pour pouvoir aller vers les collectifs. Et donc les histoires personnelles rejoignent la grande histoire avec un grand H à partir du moment où on les traite. Et donc c'est pour ça que pour moi c'était important de ne pas traiter l'histoire d'emblée, mais commencer par un personnage et commencer par l'individu pour pouvoir arriver au collectif et pouvoir nous poser des questions de comment soigner les blessures de cette guerre.
Mire Ernesto, los muertos están muertos, aunque no sepamos dónde están.
Dans votre film, en fait, il y a un pont entre ces secrets qui sortent de la terre, de ces fosses communes, et les secrets d'une famille, d'une femme, qui sort aussi de l'intérieur vers l'extérieur.
C'est une métaphore du personnage, je pense. Le fait qu'il déterre les corps et qu'il déterre en lui-même. C'est comme si lui, il creusait à l'intérieur de lui-même pour trouver les vraies réponses.
Nuestras Madres, nos mères, a été récompensé en remportant la caméra d'or du meilleur premier film du Festival de Cannes 2019.
A veces me preguntas cosas que no diría ni bajo tortura.
C'était Maria Carolina Pina à la rencontre du réalisateur César Diaz et c'est l'actualité maintenant, l'actualité ultramarine aux Caraïbes avec Benoît Ferrand. On part en Guadeloupe. Demain, l'île de la Désirade accueillera la visite de la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique au programme le ramassage des algues sargasses. Bonjour Benoît.
Bonjour Joris. Oui, une visite d'Emmanuel Wargon, un an presque jour pour jour après celle de Nicolas Hulot. C'était le 11 juin 2018. À cette occasion, le ministre de l'époque donc avait annoncé un plan de 10 millions d'euros financé à 50% par l'État. Autre annonce, le ramassage des algues sargasses dans les 48 heures après leur échouage sur les plages. Alors un an après, où en est-on? Élément de réponse avec Peggy Robert.
Ramasser les sargasses 48 heures après les échouages près des zones habitées, ça reste un défi. À certaines périodes, les échouages sont trop massifs, les rotations des engins de collecte insuffisantes. Comme il faut bien trouver des solutions, même provisoires, un ponton flottant a par exemple été mis en place à Terre de Bas, au lieu dit de la poterie de Fidelin. Les bateaux de ravitaillement ont pu alors accoster et désenclaver l'île pendant quelques jours. Le plan étatique a aussi mis en place un système de surveillance. 24 capteurs fixes sont actuellement répartis sur tout le territoire pour faire remonter notamment les données d'émanation de gaz et publier des bulletins quotidiens. Là encore, le système montre ses limites. Au mois d'avril dernier, ni la préfecture ni l'ARS ne peuvent envoyer de techniciens ou d'agents pour effectuer des relevés sur la plage de Grandanse à Terre de Bas. Or, l'air est irrespirable. Les relevés d'hydrogène sulfuré et d'ammoniac vont au-delà des seuils limites. Le maire doit faire évacuer une partie de la population vers les hauteurs de l'île. Cap Esther de Marie-Galante, elle, se meurt littéralement. La commune se vide de sa population. Maux de tête, nausées, vomissements. Les résidents n'en peuvent plus et partent s'installer ailleurs. La secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuelle Wargon, doit se rendre demain sur le site de la plage à Canot, à la Désirade. Avec un peu de chance, il restera cette fois quelques mètres cubes de sargasses pour que la ministre mesure le degré de puanteur et de toxicité de ces algues. Les services de l'État avaient fait diligence en septembre dernier pour retirer les algues de la plage de Lançadouville à Guayave, 24 heures avant la visite d'Emmanuel Macron.
Direction la Guyane maintenant, avec un nouveau succès pour Ariane 5. Dans sa version ECA, le lanceur lourd européen a mis en orbite avec succès deux satellites de télécommunication hier soir. Il s'agit du 104e lancement depuis Kourou, réalisé avec Ariane 5, et le 5e lancement de l'année pour Ariane Espace. Et dans le même temps, les travaux d'Ariane 6 avancent au Centre Spatial Guyanais, avancent à grands pas. Le mât est terminé, le mât contre lequel s'appuiera la future fusée. Christophe Munoz est responsable des programmes Ariane 6 au CNES. Il est au micro de Jean-Gilles Assard.
Nous finissons l'infrastructure, donc le groupement FH Éclair 6 arrive à la fin de son travail, en dehors du portique qui va prendre encore quelques mois. Mais au niveau du génie civil, de l'équipement climatisation, énergie, ça se termine. Le mât est fini, donc on va l'équiper, on va monter dedans tout le process, donc électrique, courant faible, fluide, et on fait les qualifications techniques à la fin de cette année, donc le dernier trimestre 2019, à vocation à mettre en œuvre chacun des procédés unitairement et ensuite tous ensemble sans le lanceur. Ensuite, on fera des essais avec le lanceur en 2020 pour arriver à un lancement dans le dernier trimestre 2020.
Voilà, prochain lancement d'une Ariane au mois de juillet. Bon après-midi, Joris, bon week-end à lundi.
Bon après-midi à vous, Benoît Ferrand, RFI, il est presque 14h29.
RFI parle au monde en français, mais aussi en 14 autres langues. Écoutez RFI en brésilien.
Todos os dias, acompanhe nosso programa em português nos horários de 6h30 e meio-dia, horário de Brasília, para o Brasil.
Écoutez RFI en brésilien à Belém sur 93.7 FM et sur br.rfi.fr.